totalement ce qui
se passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la vie de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci d'être de nôtre en RDC. Plus d'un enfant sur quatre en âge de scolarité ne fréquente pas l'école. C'est le résultat d'une étude réalisée par le ministère de l'EPSP avec l'appui de l'UNICEF et autres partenaires de l'éducation. Ce rapport évoque plus de la moitié des enfants qui commencent l'école tardivement et plus de la moitié des filles comptées au nombre des enfants hors d'école. Des résultats qui seraient dus, selon le même rapport, notamment au financement insuffisant du système éducatif par l'État congolais. Quelles sont, selon vous, les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants? Rejoignez-nous pour participer à cet échange de près de 57 minutes à l'adresse pa@radiocapi.net ou encore appelez-nous au 081 890 6315. Sitting Poutou, Piero et Lameji sont à la réalisation de ce programme mis en onde par Alain Ngoy et présenté par J.R. Lungembo sous la supervision de Nikon Gaka. Excellente condition d'écoute à toutes et à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Plus d'un enfant sur quatre, soit 7 millions d'enfants de 5 à 17 ans, dont 3 millions à l'âge de la scolarité primaire autour des 6 à 11 ans, sont actuellement en dehors du système scolaire. Ceci ressort du rapport, comme je viens de le dire, le rapport final de l'étude sur les enfants et adolescents en dehors de l'école en République démocratique du Congo, validé ces jours par les experts du ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, les partenaires techniques et financiers de la société civile. Donc, nous en parlons avec vous. Vous pouvez également participer à ces débats en nous proposant vos préoccupations et aussi vos pistes de solutions avec comme question quelles sont selon vous les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants. Olivier, vous êtes à Kikwit, c'est vous qui allez dans un premier temps ouvrir les débats du jour. Olivier, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, je l'ai dit, en RDC, plus d'un enfant sur quatre en âge de scolarité ne fréquente pas l'école. Donc, c'est les résultats d'une étude réalisée par le ministère de l'EPSP avec l'appui de l'UNICEF et autres partenaires de l'éducation. Et selon vous, quelles sont les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants? Parce qu'on évoque l'insuffisance de financement dans les secteurs. Donc, l'État ne finance pas assez les secteurs.
Ok, merci. Bon, je dirais d'abord que à la lueur vont les choses, et si nous ne faisons rien, demain ce ne sera pas un quart, plus d'un quart, ce sera plus de la moitié des enfants. Alors, les causes, la première cause a été donnée par les enquêteurs, donc le financement insuffisant par l'État. Ça c'est vrai, je dirais même la cause principale. Donc, on peut dire carrément la démission. Je crois qu'ici, on pourrait remplacer le mot financement insuffisant par démission de l'État. Et cela, c'est à tous les niveaux. Alors, la deuxième cause sur laquelle j'aimerais quand même qu'on
puisse t'attarder,
c'est que, en même temps que l'État ne finance pas, le même État s'appuie sur les parents et matraque même les parents pour que ceux-ci financent le système scolaire. Alors, vous pouvez faire le tour de toute la République, pratiquement toutes les activités liées à l'enseignement sont financées par les parents qui ne sont pas payés. Et donc, alors, vous avez la promotion scolaire, les différentes constructions, et nous avons l'organisation des examens d'État, c'est pratiquement les parents qui financent. Et ça décourage tous les parents, et finalement, il y a des parents qui choisissent de laisser les enfants à la maison. Je vous donne un cas précis. Nous sommes dans le Bandundu, et beaucoup d'écoles ont fait le budget de l'année scolaire. Et puis, en cours d'année, il y a des frais qui viennent s'ajouter. La coordination provinciale doit être construite. On ajoute 700 francs par élève. Nous avons la province, c'est-à-dire le gouvernement provincial, qui ajoute, alors qu'en début d'année, on avait prévu 920. Aujourd'hui, on vous dit c'est 2760 par élève. Et puis, il y a les examens d'État où on avait prévu dans certaines écoles, on a prévu 50 000, mais on vous dit non, c'est 64 500. Et ça, c'est en milieu d'année. Alors, vous comprenez que tout ce fait que l'État vient ajouter, ou les acteurs de l'État, parce que finalement, on ne sait pas si c'est Kinshasa, ou bien si c'est chaque sous-division qui décide à son niveau. Alors, nous avons là un problème qui vraiment constitue un obstacle très sérieux à la scolarisation des enfants. Et donc, je pense que si nous devons investir, si nous devons chercher à investir dans la scolarisation des enfants, il nous faut d'abord que nous mettions l'État devant ses responsabilités. L'État doit se réveiller. Et je crois qu'à ce moment ici, il nous faut parler sérieusement du problème de l'État, parce que à tous les niveaux et dans tous les domaines, vous constatez que l'État est démissionnaire. Donc il faut, ça c'est la première chose, le premier pas. L'État se réveille. Et deuxième chose, les animateurs de l'État doivent aussi faire preuve de beaucoup d'efficacité dans tout ce qu'ils font et être là pour le travail de la République. Parce que nous constatons que dans le domaine de l'enseignement, les acteurs ont compris qu'on peut avoir facilement l'argent dans ce secteur-là. C'est comme ça que à chaque trimestre ou chaque sous-division, là où elle se trouve, elle trouve un moyen pour imposer X ou Y frais aux parents qui, eux aussi, n'ont pas les moyens de réclamer. Mais donc, je pense que nous avons deux niveaux. Nous avons l'État et puis nous avons les acteurs de l'État ou les animateurs de l'État qui doivent aussi faire preuve de beaucoup d'efficacité preuve de beaucoup de modestie. Donc, voilà.
Merci beaucoup, Olivier. Donc, nous retenons que vous êtes d'accord avec le rapport qui dit que le financement insuffisant par l'État au niveau du système éducatif, et vous avez même évoqué, en d'autres termes, donc vous parlez de la démission de l'État quant à l'organisation du système. En même temps, l'État ne finance pas. Vous parlez de l'État qui s'appuie sur les parents pour financer l'éducation de leurs enfants. Et vous en avez cité d'ailleurs quelques exemples. Le financement de l'examen d'État, par exemple, ça, en majeure partie, est tenu par les parents eux-mêmes. Et au finish, vous évoquez le problème de dysfonctionnement de l'administration du système scolaire qui, en tout cas, au fait, serait à la base de cette situation où fait qui vient de confirmer le résultat publié par l'UNICEF et d'autres partenaires qui notent que plus d'un enfant sur quatre en âge de scolarité ne fréquente pas l'école en RDC. Merci Olivier d'avoir appelé. Nous prenons Étienne qui est à Guémena. Bonjour Étienne.
Bonjour Ado Kassim, bonjour à tous les auditeurs.
Étienne, vous avez suivi Olivier qui parle, qui est tout à fait d'accord avec ces rapports qui mentionnent le financement insuffisant par l'État, le financement insuffisant donc du système éducatif par l'État. Est-ce que vous partagez cet avis?
Ok, monsieur le joueur, j'ai soutenu à 100% la position d'Olivier, mon prédécesseur. Parce que vous savez, monsieur le journaliste, qu'au stade actuel, le gouvernement congolais en matière de l'éducation est démissionnaire. Et les rapports publiés par l'UNICEF et d'autres partenaires tombent au point. Et c'est un rapport juste et correct. Parce que, c'est comme a dit Olivier là, il y a un risque que demain après demain, que au moins plus de la moitié des enfants congolais ne puissent même pas fréquenter l'école. Il y a plusieurs paramètres qui font à ce que les enfants congolais ne puissent pas être là. Olivier a parlé de la prise en charge de plus de la moitié des frais par le parent. Ça, c'est vrai. Mais aussi, monsieur le journaliste, qui n'est pas revenu à ce qu'a dit Olivier, il y a le système éducatif actuel aussi ne favorise presque pas l'émergence des enfants congolais en cette matière. D'abord, vous savez, s'il faut en faire une petite comparaison, vous allez voir que jadis, les enfants congolais ne pouvaient que quitter la maison, mettre brebis et aller trouver tout à l'école. Par exemple, les ardoises, les crayons et consorts. Et cette éducation avait favorisé à ce que ceux qui ont étudié à l'époque là, vraiment avaient des bagages intellectuels vraiment remarquables. Mais aujourd'hui, vous savez, ce sont les parents qui sont d'ailleurs, dans la plupart des cas, des paysans, des fonctionnaires, mais mal payés. Hein? Qui prennent en charge 3, 4 ou 5 enfants qui étudient. Imaginez d'abord acheter, chercher à nourrir ses enfants, chercher à les habiller, payer même la scolarité de ses enfants. Pendant que ce sont des parents qui touchent le salaire dérisoire. Donc moi je pense à mon avis que le gouvernement congolais doit prendre sa responsabilité en main. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, pour que demain après demain, un congolais puisse vous remplacer, Julien, vous qui êtes là au micro, il faut que ces enfants puissent apprendre quelque chose. Mais si on ne favorise pas l'émergence de ces enfants congolais, en matière de l'éducation, donc nous pensons que on est en train d'enterrer le pays dans son entièreté pour que demain, après demain, on ne puisse pas avoir de vrais leaders qui peuvent défendre la cause de la République démocratique du Congo.
Oui, Olivier a parlé tout à l'heure de la prise en charge de l'éducation par les parents d'élèves aujourd'hui, qui constitue aussi un frein pour réellement atteindre les objectifs de développement de millénaire pour le développement, les OMD. Aujourd'hui, c'est vrai, c'est tout un problème. Est-ce que vous pensez, comme Olivier, qu'il faudrait quand même qu'on arrive à arrêter ce système de la prise en charge de l'éducation par les parents?
Non, mais c'est, oui, vraiment, moi j'appuie cette position-là parce que on doit cesser comment les parents doivent se substituer à l'État congolais. Non, l'État doit prendre ses responsabilités au même. Quand les parents prennent en charge l'éducation ou alors, là, dans certains écoles, c'est les parents qui payent. Dans des écoles privées, par exemple. Dans une école privée où c'est les parents qui payent l'éducation à ses enfants et que les enseignants qui pressent là-bas ne vivent que de la motivation de ses parents. Mais imaginez comment on peut vraiment penser ou comment on peut vraiment éduquer cet enfant. Bon, il faut, parce que quand il faut vraiment, parce que l'éducation, il faut que quelqu'un puisse sanctionner. Quand vous sanctionnez, l'enfant dira par exemple non, parce que nous le connaissons, ce sont des faits vrais. L'enfant dira non, c'est grâce à la prise de charge de mes parents que nous êtes payés. Donc, quelque peu, ça réduit l'encadrement, ça faiblit l'enseignant même, et ça fait à ce que vraiment on puisse tolérer les intolérables. Et les enfants deviennent ce qu'ils sont, et tout ça c'est à la recherche de notre gouvernement. Donc, si on pouvait cesser vraiment à ce système de prise en charge par les parents des enfants, vraiment je pense qu'on assisterait vraiment à une très bonne formation des enfants congolais, et que vraiment l'éducation reviendrait vraiment à ce qui s'est passé à l'époque où quelqu'un qui terminait est 2-4, mais qui pouvait se défendre, qui devrait bien parler français, bien écrit, contrairement à aujourd'hui où un élève qui est finaliste, qui est diplômé d'État, mais il n'est même pas à mesure de s'identifier, s'il vous plaît, monsieur le journaliste. Donner son liberté complète, il n'est même pas capable de le faire. Donc, voilà, ce sont là de...
Voilà, merci. Merci beaucoup, Laurent-Étienne.
L'État congolais pouvait vraiment se mettre dans sa peau, ça nous aiderait.
Voilà, vous partagez le même point de vue qu'Olivier, qui nous a appelé de Kikwit, et vous êtes revenu sur l'état des missionnaires. Il faudrait que, à un certain niveau, que l'autorité congolaise puisse travailler dans le sens de pouvoir élever le niveau de l'enseignement qui est aujourd'hui au rabais. Et vous avez fait remarquer que le système éducatif actuel ne favorise pas l'émergence des enfants congolais. 081-890-6315 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs.
Nous continuons avec la série des auditeurs avant de recevoir notre invité Ibrahima Diallo, qui est spécialiste à l'éducation à l'UNICEF, que nous allons recevoir dans quelques instants. Omar, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierre-Yves.
Oui, c'est plutôt J.R. Lungembo qui est à l'antenne.
Merci,
voilà.
J.R. Lungembo.
Voilà, Omar.
Alors, il paraît très intéressant et je suis très content d'en participer. Mais ça me fait très mal parce qu'il y a quelques semaines passées, vous avez eu à recevoir le ministre de l'EPSP.
Okay.
Et lorsqu'on avait posé la question des savoirs sur la gratuité, il nous avait assuré, c'était vous qui l'avez reçu, je crois que dans presque toutes les provinces, la gratuité était effective. Donc il y a donc là une incohérence entre ce qu'il a dit et ce que les rapports viennent d'effectuer. Alors je suis en train de regretter parce que la caractéristique principale d'un état de droit, c'est le respect des lois que cet état met en place. C'est désolant aujourd'hui, c'est regrettable de constater qu'au Congo, il existe des textes tant internes qu'internationaux qui garantissent les droits à l'éducation et obligent à l'État de la rendre gratuite et accessible à tous les enfants. Mais c'est désolé de remarquer qu'il y a une incohérence entre le texte et la réalité sur le terrain. Par rapport à cela, moi je pense qu'une démarche intellectuelle ne se limite pas seulement à remarquer les faits, mais plutôt à déceler les causes. Les causes étant décelées, Moi, je pense que pour améliorer cet état des choses.
Oui, oui, Omar, oui. Je crois que vous avez suivi l'émission que nous avons pu réaliser avec son Excellence, Monsieur le Ministre de l'EPSP, la semaine, il y a quelques semaines. Le ministre a reconnu quand même il y a quelques défis à relever dans le système éducatif. Il a même annoncé donc les enquêtes. Il avait même eu à faire mention sur les enquêtes qui ont été menées par l'UNICEF et d'autres partenaires par rapport au système éducatif. Et surtout en rapport avec les enfants qui sont en dehors du système éducatif. Et le fait que le ministre l'avait reconnu, il a même souhaité qu'il y ait beaucoup plus de financement dans les secteurs pour arriver à relever ces défis. Et alors aujourd'hui, nous revenons sur les rapports qui ont été publiés. C'est vrai que dans ces rapports, il est dit plus d'un enfant sur quatre en âge de scolarité ne fréquente pas l'école. Nous voyons, dans la mesure du possible, quelles sont les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants. Est-ce que vous avez quelques stratégies à proposer?
Oui, merci beaucoup. Je voulais évoquer cela parce que c'était par rapport au sujet, mais s'il faut aller à votre problématique d'aujourd'hui,
ouais,
je pense que si beaucoup d'enfants en âge de scolarité ne fréquentent pas l'école, la première raison c'est que les conditions des salaires de leurs parents sont vraiment déplorables. Comment un parent qui touche 40 000 francs peut envoyer l'enfant à l'école? De deux, on a parlé du financement insuffisant de l'État. Moi, je pense que ce n'est pas l'argent qui manque. Il faudrait peut-être une volonté politique qu'on a toujours décriée. Le plus important, ce n'est pas que les émissions se passent. Il faut aussi que ceux qui nous écoutent puissent les mettre en application. De deux, pour finir, il faut qu'il y ait de la part de ceux qui nous gouvernent la capacité d'organiser les choses. La volonté ne suffit pas. Il faut encore avoir le temps. Si l'on vous met dans une poste que vous n'arrivez pas à vous priver, mais il faut faire des choses. Les jours où nous aurons au Congo des gens qui nous dirigent, qui ont la volonté politique déterminée, ainsi qu'une capacité d'organiser les choses. Je crois nous entendre à un niveau élevé. Les Gabon, notre voisin ici, un enseignant paye à 500 dollars, tous les enfants sont là. En Libye, les étudiants, des bourses et tout le monde étudie. S'ils l'ont fait, ils n'ont pas fait de la magie. Qu'est-ce qui manque au Congo d'organiser l'enseignement qui est, n'est-ce pas, le déclenchement d'une société? Je pense qu'il faudra améliorer les salaires des parents. Je pense qu'il faudrait avoir de la part de ceux qui nous gouvernent une volonté politique déterminée, ainsi qu'une capacité réelle d'organiser les choses. Ainsi, n'est-ce pas, nous pourrons redorer les blasons longtemps en nous et l'éducation du Congo. Je vous remercie, monsieur.
Merci, Omar, d'avoir appelé de Kinshasa, dans la ville-province de Kinshasa. Nous nous rendons tout de suite dans la province orientale où on va retrouver Rachel, hein, qui est en ligne. Rachel, vous êtes à Isiro. Bonjour.
Bonjour.
Oui, Rachel, ça fait longtemps. Voilà, c'est un réel plaisir hein, pour nous de vous avoir encore dans ce en ligne pour participer dans cette émission. Rachel, vous avez suivi vos prédécesseurs.
Oui, vraiment. Le problème est que j'ai étudié aussi dans les enfants.
Mais voilà, de
fois,
ça, oui.
J'ai un peu de temps, c'est pourquoi je
profite des enfants. Oui, parce que on est très conscients que vous êtes très très fidèle oui. à parole aux auditeurs et surtout vos analyses nous font tellement plaisir. Rachel, vous avez la parole. Quelles sont, selon vous, les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants et surtout si nous en tenons au rapport, au tout dernier rapport de l'UNICEF et, bah, avec les partenaires qui mentionnent que
oui,
plus d'un enfant sur quatre voilà.
Ce qui est à la base de tout ça, c'est la pauvreté. Si on devait d'abord lutter contre la pauvreté, il y a des parents qui sont incapables d'envoyer leurs enfants à l'école parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer les frais scolaires. Mais je m'étonne, avant les gouvernements avaient cette bonne habitude-là de créer des construits des écoles gratuites pour ces enfants. Alors les enfants ou les parents n'ont pas les moyens pour les envoyer à l'école. Mais il y a des parents qui envoyaient ces enfants parce que là-bas c'était gratuit, on ne payait pas. Et maintenant, il y a autre chose aussi, je voulais dire, j'en profite parce qu'on est au mois de la femme. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de mamans, les gens qui n'ont pas de mois, peut-être par exemple deux enfants, peut-être, ou trois. Et là, il y a une fille là. On voit là, on envoie des garçons à l'école, on laisse la fille à la maison pour dire que non, elle est là, peut-être qu'elle se mariera après, non. Là, j'en profite de dire aux mamans, de bannir cette idée-là, de dire que non, la fille là, c'est pas bonne pour le mariage, non. Il faut qu'on envoie tout, que ce soit la fille et les garçons.
Rachel, parce que vous abordez la question, aujourd'hui vous êtes ici, on sait que dans la cartographie hein, de système éducatif, si on regarde bien, on se rend compte que dans la partie orientale, là où vous êtes, il y a un problème sérieux d'accessibilité des filles à la scolarité. Hein. Est-ce que vous pouvez nous donner quand même quelques raisons?
Oui, premièrement, d'abord, ça concerne, il y a aussi les filles. Et premièrement, ce sont les filles elles-mêmes qui se découragent de ne pas aller à l'école. Parce qu'à la fois, il y a aussi des procès qui découragent les filles, vu que non, toi, tu ne peux pas étudier, le mari est là pour te l'étudier déjà pour toi. Or, ce n'est pas ça. Il y a une autre chose, ce sont les parents qui font ça. Il y a des parents qui disent que non, la fille, toi, tu peux rester à la maison, tu attends seulement les mariages, il viendra pour toi. Non, ça, je dirais vraiment, ce n'est pas du tout bien. On doit envoyer les garçons et la fille, ils doivent aller étudier à l'école.
L'égalité des chances. Merci beaucoup. Oui. Rachel, nous prenons Djuma qui est à Kindou. Bonjour Djuma.
Oui, bonjour, c'est Rachidi Djuma de Kindou, Maniema, et je salue tous les Okapi et Tigel.
Voilà, Djuma, vous êtes avec nous. C'est vrai, vous avez suivi vos prédécesseurs qui ont réfléchi ensemble avec nous autour de cette question, d'abord autour de ce rapport, et aussi ils ont fait quelques propositions quant aux stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants. Vous avez à votre tour la parole, Djuma.
Ok, merci. Le problème des Congolais, c'est presque partout, à Lubumbashi, à Kinshasa, à Kisangani, mais malheureusement, peut-être à Kinshasa.
Oui, Djuma, je ne sais pas, on a un petit problème là avec, la ligne téléphonique. On pourrait peut-être... Oui, allô, Djuma?
C'est ça, lui-même n'a pas assez d'école. Allô, je vous écoute.
Oui, allez-y.
Alors, je disais que le nombre d'écoles, il n'y a pas assez d'écoles. Quelques écoles sont entre les mains des religieux, et ces religieux-là gèrent de leur manière. Alors moi-même, j'ai regretté les jours que le ministre était là, j'étais protectionné, sinon j'allais poser beaucoup de questions. Le problème, c'est toujours le problème social.
Oui, mais vous pouvez poser les mêmes questions, vous pouvez réfléchir aujourd'hui aussi. Ce n'est pas un problème parce que nous avons le partenaire de l'éducation, du système éducatif, donc l'UNICEF, pour ne pas les citer. Allez-y,
oui, moi, je devais poser la question au ministre, c'était la question relative à la sous-qualification des enseignants de l'unité secondaire. Ça aussi, c'était un problème. On mécanise les gens qui ne sont pas qualifiés au détriment de ceux qui sont qualifiés. Puisque les écoles qui sont gérées par les églises, ils envoient seulement leurs enfants, les étudiants qui ne sont pas qualifiés à l'enseignement. Ils sont mécanisés là-bas et ils évoluent comme ça, et sans critères. Et pourtant, il y a des qualifiés qui devaient mieux faire des choses. C'est ça, c'est là que j'allais poser la question. Mais pour les cas d'espèce, l'État devait créer les codes, beaucoup d'écoles, mais ici à Kindou, je ne sais pas si l'État a plus de 10 écoles. Et puis les écoles qui existent ici n'ont même pas de bâtiments. Ils sont logés dans des maisons inachevées, les gens qui croient qu'ils sont venus les accompagner ici sur la terre, ils construisent des maisons comme des champignons par-ci par-là, et ces écoles officielles, c'est là où ils abritent. Alors, quand il y a peu d'écoles, il y a aussi moins que beaucoup d'élèves trouvent de place pour étudier. Et il y a aussi le problème de moyens. L'école primaire, c'est payable, de première année jusqu'à sixième. Et puis les dons, parfois, c'est divergent. Les églises qui gèrent les écoles imposent les prix à payer sans que les parents discutent. Alors, tout ça sont des problèmes. Si l'école primaire était gratuite comme c'était prévu,
oui, mais Djuma,
ça serait une bonne chose.
Oui, Djuma, s'il vous plaît. Alors, Djuma, s'il vous plaît. C'est vrai que dans les targets, dans les assignations de programme de 5 chantiers, il était prévu la réhabilitation et la construction des écoles, en tout cas plus de 12 000, si ma mémoire est bonne. Et je crois que dans le programme, il était prévu également la réhabilitation des écoles au niveau de Kindou. Où en est-on? Vous êtes là sur place. Qu'est-ce que vous constatez? Est-ce qu'il y a eu quand même quelque chose qui a été fait dans ce sens-là, à Kindou?
On a construit une seule école d'excellence où nous, les pauvres, les basses classes, nous n'avons pas moyen d'amener nos enfants là-bas. C'est cher. Donc cette école ne nous intéresse pas. C'est toujours ces gens-là qui ont des moyens et qui sont influents. Une seule école ici.
Donc une seule école. Mais je crois qu'il fallait...
On n'a pas moyen d'envoyer nos enfants là-bas.
Donc une seule école d'excellence qui n'existait pas avant. Donc il fallait quand même commencer quelque part, Djuma.
Ah oui, on reconnaît malheureusement, nous ça nous intéresse, c'est pas nous qui sommes des pauvres, ça c'est pour eux qui gèrent.
Merci beaucoup, 081-890-63-15 ou encore le 081-890-43-39 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-63-15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Ibrahima Diallo, merci d'accepter notre invitation. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous êtes avec nous, vous avez suivi les uns les autres, les auditeurs qui ont exprimé leurs inquiétudes par rapport au sujet du jour. Nous parlons beaucoup plus sur du rapport de l'enquête menée par l'UNICEF et d'autres partenaires en ce qui concerne le système éducatif et plus particulièrement les enfants hors du système. Là, le résultat mentionne, le rapport mentionne plus d'un enfant sur quatre en âge de scolarité ne fréquente pas l'école. Mais d'entrée de jeu, quelles ont été les motivations aux premières de l'organisation de cette enquête?
En fait, les motivations étaient doubles. Il faut dire que c'est une initiative internationale qui a été initiée par, disons, l'UNICEF et l'UNESCO, l'Institut des statistiques de l'UNESCO. Pour non seulement faire un peu le point sur le chemin parcouru par rapport justement aux objectifs que les pays sont assignés en termes d'éducation, mais aussi pour aider les pays impliqués dans cette recherche, il y en a à peu près 26 à travers le monde, pour aussi renforcer leur système statistique, n'est-ce pas, pour faire le tracking de tous ces enfants qui sont en dehors de l'école. Donc c'était ça l'objectif de cette étude.
Voilà, en lisant ce rapport, pratiquement à la fin, l'UNICEF s'engage, en tout cas avec d'autres partenaires, qu'au cours de son nouveau cycle de programmation entre 2013 et 2017 d'investir plus de 98 millions de dollars américains dans l'éducation primaire en République démocratique du Congo.
Tout à fait, je le confirme, et avant ça, on est en train de... Enfin, on a fini depuis décembre, le 31 décembre passé, un cycle aussi de 5 ans, qui avait commencé en 2008 et qui s'est terminé en 2012, et qui aussi a donné l'occasion à l'UNICEF d'apporter sa contribution dans le secteur de l'éducation, en appuyant le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et les partenaires sociaux justement pour que les enfants aillent à l'école et y restent, et plus particulièrement les filles. Je crois que c'est une question qui est revenue dans l'intervention d'un des...
Oui, mais nous savons que l'UNICEF, comme tout autre organisme international, vient en appui au gouvernement congolais. C'est vrai, vous avez travaillé sous 5 ans, avant 2012, et aujourd'hui, vous allez commencer encore un autre cycle de programmation, mais sur le terrain, à entendre les auditeurs, en recueillant aussi leurs appréhensions, on se rend compte que sur le terrain, le résultat n'est pas celui... escompté. Si nous prenons juste les cas des Kindu par exemple, par rapport à ce qui est fait, on se rend compte qu'il y a encore des inquiétudes qui restent. Il y a des défis à relever.
Oui, certainement, il y a beaucoup de défis à relever, ici et ailleurs d'ailleurs, c'est pas seulement à RTC. Vous savez que la problématique de l'éducation, c'est qu'elle soit assez compliquée pour des pays en voie de développement et plus particulièrement aussi pour ce qu'on appelle des pays fragiles. Qui sortent
des pays post-conflit.
Voilà, post-conflit. Donc, ça pose nécessairement problème. Mais ça ne veut pas dire aussi que des bons n'ont pas été faits. Je crois que si vous avez bien lu le rapport de l'étude, il ressort qu'effectivement, en termes, n'est-ce pas, relatifs, le nombre d'enfants qui sont en dehors de l'école est en train de baisser quand même. Hein? Donc, ça veut dire que ces 10 dernières années, des efforts ont été vraiment... fait et qui ont permis de réduire en termes relatifs les enfants qui sont en dehors de l'école, même si du point de vue justement nombre, c'est quelque chose d'assez aussi important. Donc il reste à faire, il y a de gros défis.
Voilà, si nous reprenons les propos de Barbara Benten, la représentante de l'UNICEF dans ce rapport, qui dit, je cite, « Cette étude est un point de départ pour d'autres réflexions et de recherches plus approfondies dans différents domaines que les parties prenantes devraient poursuivre afin d'assurer que tous les enfants de l'RD riches ou pauvres, de Kinshasa ou du Nord Kivu, garçons ou filles, avec ou sans handicap, bénéficient de l'accès à une éducation de qualité. Qu'est-ce qu'on peut retenir, qu'est-ce qu'on peut comprendre dans
Ce qu'on peut comprendre, cette étude est une étude globale qui a utilisé toutes les méthodes d'investigation. Il y a eu d'abord la revue de la littérature qui a permis de faire le point de la situation. Et à partir de cette revue de la littérature, on a préparé, n'est-ce pas, les outils pour procéder à une enquête de terrain. Enquête de terrain qui a été qualitative comme quantitative. Et donc, voilà, on a une mine d'informations Et à partir de cette mine d'informations, on peut faire encore des recherches beaucoup plus fines. Par exemple, tout à l'heure, on vient de dire qu'il n'y a pas suffisamment d'écoles qu'il faut en construire. Mais ce que l'étude nous montre, c'est qu'il y a, du point de vue nombre, on a suffisamment d'écoles. Mais justement, si on creuse un peu plus, c'est au niveau de la qualité.
La qualité.
On a, voilà, justement, on a des écoles qu'on appelle des écoles précaires, et qu'il faudra voir, par exemple, comment les rendre en faire des écoles dures, des écoles de qualité, qui puissent accueillir les enfants pour qu'ils étudient dans des conditions acceptables.
Et quelles sont les priorités pour ces cycles de programmation? En tout cas, l'UNICEF a-t-il des priorités par rapport à ça pour relever ces défis?
Tout à fait. La priorité, c'est de maintenir l'accès des enfants à une éducation de qualité. Comme vous le savez, c'est un domaine dans lequel on travaille beaucoup et sur lequel aussi on a fait d'énormes progrès. On a de plus en plus d'enfants à l'école, même s'il en reste qui sont en dehors de l'école. Le dernier mix enquête démographique, l'enquête mix nous disait par exemple qu'on est en taux de fréquentation de 75% pour le primaire. Bon, au niveau du secondaire, il reste beaucoup à faire, c'est 32% pour des raisons sociologiques et autres. On va revenir là-dessus. Donc, c'est de maintenir justement l'accès, mais aussi, et c'est là ce qui a été relevé par certains auditeurs, de mettre l'accent sur justement la qualité. La qualité. Une chose est d'inscrire les enfants et l'autre est de faire en sorte qu'ils restent dans le système jusqu'à la fin de leur étude primaire. Et pour ça, il faut renforcer la formation des enseignants. Quelqu'un a été revenu là-dessus, que les enseignants ne sont pas très bien formés. Donc, il y a un axe sur le renforcement de la qualification des enseignants. Il y a des axes sur la réhabilitation, justement, des salles de classe pour les rendre
appréhendable
pour les enfants. Il y a un axe particulier sur la rétention des filles. Je crois qu'il faut qu'on mette l'accent là-dessus, parce que ce que l'enquête nous révèle aussi, c'est que plus on monte dans les âges, et plus les filles décrochent. N'est-ce pas? En première année du primaire, on a presque la parité entre filles et garçons, mais à partir de la troisième, quatrième année, cinquième, bon, les filles commencent à décrocher. Donc, il faut faire en sorte qu'elles puissent continuer et rester dans le système.
Et quand on regarde la cartographie du système éducatif, quelle est la partie où, disons, vous avez amené vos enquêtes, et si on peut voir peut-être entre ouest et est, là où le problème se pose, le problème est plus... plus sérieux, quoi.
Disons que dans la partie ouest du pays, ou partie centrale, c'est selon, notamment dans les provinces du Bas-Congo, du Bandundu et de Kinshasa, là, on a de très bons chiffres et on a presque aussi la parité. Et plus particulièrement dans la province du Bandundu, là, on a suffisamment de salles de classe et suffisamment d'enseignants, vraiment un nombre suffisant. Dans d'autres contrées, et notamment par exemple Katanga, en termes de nombre d'effectifs, c'est là où on a le plus grand nombre d'enfants qui sont en dehors de l'école, mais en termes relatifs, c'est au Nord Kivu. Nous avons aussi des problèmes d'éducation des filles dans le Kasaï, et ensuite à l'Équateur. Là, vraiment, il y a des défis qu'il faut relever.
Voilà, Gérard Etaïsiro, héritier à Bukavu et Kabongo à Kinshasa. Gérard, bonjour.
Bonjour, Charles.
Voilà, Gérard, vous êtes avec nous, vous avez suivi également notre invité qui vient à peine de nous rejoindre. Quelles sont, selon vous, les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants en RDC?
Oui, merci pour la question. La préoccupation, on va juste voir l'État congolais. Parce que l'État congolais est à carence de l'éducation. Il a toutes les mesures pour prendre en charge l'éducation des enfants. Et je crois bien qu'il avait déjà promis qu'il y aura une gratuité. Si cette gratuité était respectée, beaucoup de nos enfants seraient déjà à l'école. Donc, il va vraiment l'âge déterminé par la population. Ça, c'est le premier facteur, parce que Nous voyons que l'État n'est pas toujours à mesure de respecter ses actions. Et en deuxième lieu, nous voyons les parents. Parce que beaucoup de nos parents, aujourd'hui, vous allez vous rendre compte qu'un couple, par exemple, de 12 enfants, et ce couple-là, que ce soit le mari et la mère, n'ont pas étudié. Parce que si ce couple-là avait étudié, il pourrait prendre en charge aussi des enfants pour...
Donc vous liez ça aux moyens financiers. Il y a des familles qui sont dépourvues de moyens financiers, ils ne peuvent pas par conséquent d'envoyer leurs enfants à l'école, c'est ça?
C'est ça. Par exemple, le couple qui ne vit que de méchant, et si le couple est là vieillit parfois, il n'aura plus le temps de prendre ses enfants en charge, vous voyez. Alors, mon problème serait, parce que je viens en train de suivre... Les représentants de l'UNICEF là.
Ce n'est pas les représentants, c'est le spécialiste à l'éducation à l'UNICEF.
Voilà. Bon, je ne sais pas si les enquêtes qui mènent là sont centrées sur certaines provinces seulement. Parce que ici chez nous, je ne sais pas s'ils sont déjà passés.
Voilà, merci Gérard. On va revenir sur ça avec notre invité, mais nous retenons que vous avez parlé beaucoup plus sur la gratuité, c'est vrai, c'est une des dispositions même de la loi fondamentale de la RDC qui demande à ce que l'enseignement degré élémentaire soit gratuit et aussi obligatoire. Donc je crois que c'est à ce niveau-là qu'on va faire le débat avec notre invité. Merci. Héritier, vous êtes à Bukavu. Bonjour. Héritier, vous êtes avec nous? Bonjour. Voilà, nous prenons plutôt Kabongo Confiance qui est à Kinshasa, en attendant que la ligne d'héritier puisse se rétablir. Kabongo Confiance, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez suivi l'invité ainsi que vos prédécesseurs. Vous avez un commentaire à émettre par rapport à la question du jour. Quelles sont, selon vous, les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants?
Oui, comme d'habitude, je prendrai l'homme au centre de la préoccupation des dirigeants. Si déjà l'homme est au centre de la préoccupation des dirigeants, c'est-à-dire l'enfant aussi, l'est doublement. Donc 25% quand même, c'est beaucoup. Et moi, je pense que c'est lié à beaucoup de facteurs qui sont en relation avec notre niveau de vie. Et parmi les stratégies, moi j'aurais souhaité que l'effectivité de la gratuité de l'enseignement soit vraiment établie. Il y a l'augmentation du budget alloué à l'éducation, l'amélioration des conditions d'études pour ne pas faire de l'école une corvée, parce qu'il y a des enfants qui pensent qu'aller à l'école c'est une punition. Donc je pense qu'il fallait faire aimer aux enfants les études. Donc faire de l'enseignement un métier noble, comme on l'a toujours dit, comme il était dans le temps. La prise en charge des enseignants doit être la responsabilité de l'État congolais, et non des parents. Il y a aussi la motivation dans tous les deux sens, dans le sens de l'enfant qu'on amène à l'école, et dans le sens des enseignants aussi, y compris les dirigeants. Donc rendre les études obligatoires au primaire et au secondaire, tout en adaptant le système d'enseignement aux réalités du besoin d'emploi et de développement de notre pays. Donc nous avons peut-être un système d'enseignement qui fait en sorte que quelqu'un qui termine l'école primaire ne sait rien faire avec son certificat, celui qui termine l'école secondaire ne sait encore plus rien faire, et peut-être l'université, il termine, mais il doit faire des stages, il est certes. Mais moi, je pense qu'à partir déjà de l'école secondaire, on doit être capable de faire quelque chose avec son diplôme pour aider son pays. Donc, c'est une façon de voir les choses.
Merci, Confiance. Nous restons à Kinshasa avec Richard. Docteur Richard, vous êtes avec nous, bonjour. Docteur Richard, vous êtes avec nous? Voilà, le temps peut-être d'aller un peu plus loin, à 8000 kilomètres. On va rejoindre Jérôme qui est à Bruxelles, en Belgique. Jérôme, vous êtes avec nous?
Oui, je suis là, je suis en ligne, je vous écoute.
Voilà, Jérôme, vous avez la parole.
Oui, bonjour. Donc, je voudrais souligner quelques faits qui sont vraiment très importants. L'importance vraiment de la scolarisation. Parce que un programme scolaire, c'est d'abord l'acte politique le plus fondamental. Donc c'est le programme politique, parce que on donne à nos enfants le raisonnement, le schéma de raisonnement, comment ils vont se comporter pour le futur. Et puis deuxièmement, c'est encore plus important, parce que pour le moment on parle beaucoup de la cohésion nationale, on parle de tout au Congo, Mais le premier acte de cohésion nationale, c'est le programme scolaire. C'est pour vous dire qu'un enfant qui est né, par exemple, à Lubumbashi, va étudier la même chose qu'un enfant qui est à Matadi, qu'un enfant qui est à Mbandaka, qu'un enfant qui est à la province orientale, un enfant qui est au Kassai. Donc, c'est l'acte d'union pour un pays, la scolarisation. Donc, c'est ça déjà l'importance de cet acte. Et puis, il faut aussi consacrer un budget. Donc, par exemple, pour la communauté française de Belgique, 30% de son budget va à l'enseignement. 30% vont à l'enseignement. Et quand on prend compte, tient compte du PIB, donc du produit intérieur brut, donc la richesse qu'une nation produit pendant une année, eh ben ce pourcentage avoisine pratiquement le 10%. Donc c'est pour vous dire que sans scolarisation, un pays ne peut pas avancer. C'est la première ressource d'un pays, ce n'est ni le cobalt, ni les cuivres, ni les diamants, ni le pétrole. Parce que le pétrole et le cuivre et tout ça sans intelligence, ils n'ont aucune valeur. Aucune valeur. C'est l'intelligence, c'est l'enseignement, c'est l'éducation, la formation qui permettront aux jeunes de mettre cela en valeur. Donc tout simplement ça pour vous dire que la scolarisation, c'est le programme politique fondamental d'une nation. C'est, on enseigne aux enfants comment raisonner, comment faire pour le futur. Donc, c'est tout simplement ça. C'est ce que je voulais ajouter.
Merci beaucoup, Jérôme. Donc, pour vous, la programmation scolaire, c'est un programme scolaire, c'est un programme politique fondamental d'une nation. Il s'agit là donc d'un schéma de comportement pour le futur. Et si on veut obtenir la cohésion nationale, c'est le premier acte à poser, c'est-à-dire organiser le système éducatif. Merci, Jérôme. Nous allons faire le débat donc avec notre invité et merci de nous avoir donné l'exemple de la Belgique qui en tout cas alloue 30% de son budget pour l'éducation, mais alors que nous sommes encore autour de 5-2%, donc jusque là on a même du mal à pouvoir accéder même à 10%. Merci beaucoup Jérôme. Richard, vous êtes à Kinshasa, on revient encore à Kinshasa avec vous. Docteur Richard, bonjour. Docteur Richard, vous êtes avec nous?
Avec vous.
Voilà, on craignait.
Bon, allô?
Voilà, docteur Richard, vous avez la parole.
Oui, merci beaucoup. Je présente mes excuses aux enfants, parce que nous, parents, nous avons failli à notre mission. Sur 4 enfants, nous comptons sur 1. C'est ça?
Voilà.
Le rapport qu'on vient de nous présenter par l'UNICEF. Cela voudrait dire quoi? L'avenir des enfants et du pays est hypothéqué. Ceux qui vont diriger le pays demain compteront sur les Mandona, sur les Tamfumu. Ils vont jouer le déqué pour nommer, par exemple, ou pour faire le projet budgétaire du pays. Donc, on rentre dans une arriération grave, de sorte que on ouvre la porte à tout, même à la recolonisation.
Mais qu'est-ce que vous proposez, vous, Richard?
Je propose que, premièrement, l'invité nous donne les chiffres depuis 60 jusqu'à aujourd'hui, les différentes enquêtes, pour qu'on sache si nous allons dans le ravin ou pas. Deuxièmement, qu'on puisse fédérer la cohésion nationale autour des valeurs. Ce que disaient les abbés, les évêques hier, autour des valeurs. L'instruction des enfants pour l'avenir du pays, c'est une des valeurs. On a pris les valeurs, on a mis de côté. On a pris l'orgueil personnel, le culte de personnalité, les biens matériels et l'argent qu'on peut avoir ou le nombre de femmes, on a mis devant. C'est ça le problème. L'avenir du pays est hypothéqué.
Voilà, merci beaucoup, docteur Richard. Nous retenons des choses. Vous aimeriez avoir un cœur net hein, sur les chiffres hein, de 60 à 90 jours. Je crois plusieurs enquêtes qui ont été qui ont précédé cette dernière, menée par l'UNICEF et d'autres partenaires. Et vous voulez qu'à ce niveau qu'on puisse fédérer la cohésion nationale autour des valeurs. Et vous avez cité l'appel des évêques. D'ailleurs, nous vous informons que c'est le sujet que nous allons aborder le lundi prochain. Donc cet appel, qu'est-ce que cela vous inspire. Nous allons faire le débat autour de ça. Merci, docteur Richard. Ernest, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Bonjour, JR.
Voilà, Ernest, vous avez suivi Jérôme de Bruxelles, docteur Richard à Kinshasa, et tant d'autres auditeurs qui vous ont précédé par rapport à la question. Et quelles sont, selon vous, les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants? Parce que, selon l'enquête menée par l'UNICEF, il y a insuffisance de financement par l'État au niveau du système éducatif.
Merci, J.R. Je crois que je ne serai pas éloigné de ceux qui m'ont précédé. L'éducation des enfants, c'est une réalité à exprimer d'une façon expresse, sérieuse, dans la loi fondamentale que nous appelons la Constitution. La philosophie de l'enseignement ne doit pas être une préoccupation de l'UNESCO ou de l'UNICEF. C'est une préoccupation sur les valeurs fondamentales exprimé par notre constitution,
Ernest,
la République.
Oui, Ernest, il ne faut pas oublier, dans la mondialisation, il y a des partenaires qui travaillent, donc on ne peut pas faire cavalier seul, d'autant plus qu'il y a beaucoup de contraintes pour tel ou tel autre domaine. Il faudrait associer certains partenaires pour arriver à un résultat. Donc on ne peut pas demander à la RDC d'aller seul pour résoudre, par exemple, un problème de système éducatif. Et l'invité l'a reconnu tout à l'heure, ce n'est pas seulement le problème particulier du Congo. Hein. Il y a d'autres pays aussi, en Afrique ou ailleurs, qui éprouvent les mêmes difficultés que comme nous.
C'est bien, il a raison. Mais les partenaires viennent rencontrer le soubassement, la fondation. Que dit la fondation? Qu'elle représente, quelles sont les préoccupations, les visions ou la vision fondamentale du gouvernement pour que les partenaires viennent nous accompagner? Et nous n'avons pas cette vision. Aujourd'hui, lorsque ceux qui sont aujourd'hui dirigeants, qui ont fait à l'époque 4 ans post-primaire ou 4 ans primaire, avant de la 6e primaire, voilà comment ils écrivent la calligraphie. Pourquoi aujourd'hui, nous n'avons pas cette qualité? Vous prenez les élèves qui terminent en 6e secondaire pédagogique. Ils ont quelle qualité pour s'occuper des jeunes enfants qui viennent de la maison, qui ne connaissent rien? C'est ça la préoccupation. Lorsque la formation, on dit que l'enseignement ne répondent plus aux besoins de la population. Vous allez abandonner des décisions qui ont de sérieuses lacunes pour s'occuper des jeunes enfants. Il faut s'attendre à quel résultat. Vous prenez ceux qui terminent le graduat, qui ont encore des lacunes, et qui vont s'occuper de ceux qui viennent de l'école primaire, deuxième, et même en secondaire, qui, en ce moment, il y a encore des problèmes. Donc, nous pensons que le gouvernement doit avoir une vision personnelle exprimée dans la Constitution pour que les partenaires viennent rencontrer cela. Si les partenaires viennent rencontrer que nous n'avons rien, les partenaires vont nous orienter dans la direction qui n'est pas la nôtre. Or, le gouvernement peut aussi appliquer la collaboration, la politique de collaboration. On peut étudier là où nous estimons que dans ces pays, la formation est solide. On peut aller voir quel est le système qu'ils ont. Pourquoi nous n'avons pas cette habitude d'avoir l'ouverture? Lorsqu'il y a l'ouverture, on voit que pour nous, c'est l'Afrique du Sud, pour nous, c'est l'Ouganda, pour nous, c'est peut-être le Sénégal où on trouve l'enseignement dynamique. Nous partons voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et les partenaires viendront rencontrer déjà une structure que nous avons et ils vont suivre notre structure. Mais malheureusement, nous, ici, nous, je constate que nous sommes derrière remorqués par les partenaires et nous n'avons rien à dire. Dans ces conditions, comme on n'aura rien à dire, on nous conduit dans n'importe quelle direction, les résultats, c'est ce que nous avons de déplorer aujourd'hui.
Voilà, je crois que s'il faut, donner un point de vue par rapport à ce que vous venez de dire, Ernest, c'est vrai que vers les années 70, on avait les résultats avec ce partenariat au niveau de l'éducation avec les Haïtiens. Ça a donné quand même un bon résultat. Aujourd'hui, il y a des écoles où les enseignants qui provenaient de Haïti et qui venaient enseigner ici au Congo, et nous avons de bons résultats, et même au sommet de l'État, il y a des gens qui travaillent aujourd'hui, même dans la Première République, et qui ont fait des études aux côtés de professeurs qualifiés. Je crois que le partenariat, c'est quand même un bon signe. On va y revenir peut-être avec notre invité, voir dans la mesure possible quelles sont les orientations politiques qui ont été données par rapport à ce rapport. Junior, vous êtes à Brazzaville. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, Junior, vous êtes avec nous, vous avez suivi vos prédécesseurs, est-ce que vous partagez la majeure partie de leurs avis?
Non, ça ne peut pas partager concernant mes prédécesseurs. La force ne peut pas partager. Donc, je ne peux pas imaginer, un parent qui touche au moins 72 000 francs, 70 000 francs, l'homme est 9 enfants, 8 enfants, comment est-ce qu'il peut avoir tous ses enfants à l'école? Parce que je veux poser que donc, sur l'invité.
Merci beaucoup, Junior. Là, vous rejoignez vos prédécesseurs sur la gratuité, parce que ça pouvait aider hein, les parents qui sont démunis, qui n'ont pas assez de moyens hein, de pouvoir envoyer des enfants à l'école, question d'avoir l'égalité des chances. Merci, Junior. 081-890-6315 pour participer à ces débats.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Voilà, il faut encore beaucoup d'inquiétudes, beaucoup d'appréhensions. Ibrahima Diallo, vous n'êtes qu'un partenaire, vous venez en appui, mais les problèmes, est-ce que les partenaires font tout de même des plaidoyers auprès du gouvernement congolais, ne serait-ce que pour revoir un peu à la hausse la part allouée au budget, la part allouée donc sur le secteur de l'éducation?
Mais absolument, et je voulais juste peut-être apporter quelques clarifications aussi, surtout par rapport à l'avant-dernier intervenant, lorsqu'il dit que le gouvernement n'a pas de vision. Je pense que depuis 2010, le gouvernement s'est doté d'un document de stratégie du sous-secteur de l'éducation primaire, scolaire et secondaire. Et vraiment, c'est un document d'orientation extrêmement fouillé, avec des objectifs très clairs, n'est-ce pas, qui aujourd'hui permet l'alignement de l'ensemble des intervenants du système éducatif. Et mieux, depuis l'année dernière, ce document de stratégie a été décliné en plan opérationnel, en plan d'action. Et ce plan d'action, c'est un plan d'action chiffré, et qui d'ailleurs a permis, comme vous parlez justement des partenaires au développement, avec ce plan d'action, de faire le plaidoyer auprès des partenaires internationaux. Et le résultat, c'est que la RDC va avoir accès à des ressources, par exemple, du partenariat mondial de l'éducation.
Avec 100 millions.
De 100 millions de dollars. 100 millions de dollars pour 3 ans. Donc, c'est dire que quand même, il y a des documents d'orientation, il y a une volonté politique manifeste. Bon, ça, c'est ce que c'est au niveau international. Il y a une toute nouvelle initiative qu'on appelle l'éducation avant tout, qui a été lancé par le secrétaire général des Nations Unies et qui a à sa tête Gordon Brown, ancien premier ministre britannique, et qui donc aussi, n'est-ce pas, est en train de mobiliser la communauté internationale pour que dans les 9 pays au monde où on a le plus d'enfants en dehors de l'école, qu'on puisse accorder soit la priorité à ces pays pour que ces enfants puissent aller à l'école et qu'on puisse résorber le gap soit des enfants qui sont en dehors de l'école. Et d'ailleurs, dans ce cadre, une réunion est en train de se préparer à Washington au mois d'avril prochain, et la RDC sera représentée à son plus haut niveau. Et présentement, d'ailleurs, nous sommes en train de travailler sur le document qui sera présenté là-bas, et on a l'ensemble des partenaires. Hier, on était en réunion avec ce qu'on appelle la société civile, les partenaires sociaux, n'est-ce pas, les syndicats, les associations de parents d'élèves, les réseaux religieux, pour qu'ils puissent donner leur contribution, n'est-ce pas, dans ce document. C'est un document qui doit être un document consensuel, hein, qui devra recevoir les inputs de tous les toutes les parties prenantes du système éducatif.
Oui, parce qu'il faudrait, on se rend compte qu'il y a eu pas mal de programmes qui ont été initiés, mais le résultat sur le terrain n'est pas celui escompté. Je peux donner les cas, par exemple, de PARS, le programme d'appui de reconstruction du secteur de l'éducation, qui n'a pas vraiment du tout donné les résultats escomptés et qui n'était que qui était pratiquement un mort-né, en fait.
Non, en fait, je pense qu'il ne faut pas confondre des projets qui interviennent dans des secteurs bien donnés et des domaines précis, n'est-ce pas, par rapport à des orientations globales aussi et des documents englobalisants qui peuvent aussi permettre de faire des choses, de mettre des choses à l'échelle. Il y a des projets qui sont vraiment des projets à petite échelle, qu'on teste et si c'est probant, on peut passer à l'échelle. Mais il y a ce dont je viens de parler, c'est des stratégies de grande envergure qui peuvent aboutir sur des impacts palpables. Ça, c'est un élément. Donc, juste pour dire qu'il y a ces efforts au plan international, mais aussi au niveau interne. Je crois qu'on oublie souvent de le dire, peut-être que le gouvernement mérite peut-être d'être invité ici et de mieux expliquer. Mais le budget aussi a connu quand même une hausse. De ce que j'ai ici en 2007, par exemple, le budget était autour de 9%. Non, voilà, oui. Et aujourd'hui, en 2012, c'est allé autour de 12%, n'est-ce pas? Et là, en 2013, il compte aller jusqu'à 13%. Donc, je crois qu'il y a des efforts qui
Est-ce que vous pensez, vous, en tant que partenaire, vous pensez que la RDC sera réellement au rendez-vous des EMD d'ici 2015?
Bon, d'ici 2015, disons que c'est un peu trop.
C'est déjà avec votre cycle de programmation qui va jusqu'en 2017.
Voilà.
Voilà, donc nous pensons que...
Non, 2015, même son excellence, le ministre l'a dit l'autre jour lors de, justement, la validation de l'étude, que c'est très très serré, c'est après-demain, et que le défi est extrêmement grand. Donc il est fort probable qu'on n'atteigne pas, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'on va relâcher l'effort. Il faut continuer à travailler et essayer d'atteindre justement ces objectifs que le pays s'est assigné. Donc ça, c'était... Bon, Monsieur Richard nous a donné l'exemple du Belgique, c'est vrai. Il y a des chiffres.
Oui, Jérôme de Bruxelles,
voilà,
qui a donné 30% pratiquement.
Voilà, 30% du budget et 6% du PIB. Disons que justement pour le PIB, c'est ça la norme recommandée par UNESCO. C'est au minimum 6% du PIB du pays qui devrait être consacré à l'éducation. Bon, comme je l'ai dit tantôt, nous sommes dans des états en voie de développement où il y a énormément de défis. Ce n'est pas que je cherche à protéger qui que ce soit. Et ensuite, il ne faut pas oublier que le cas de la RDC, c'est un cas particulier, car c'est un pays qui a connu la guerre pendant de longues années, et que donc qui dit guerre dit aussi de toutes ces ressources qui sont mobilisées pour préserver l'unité nationale et autres. Je crois qu'effectivement, le programme, autant le programme est un élément de cohésion.
Oui, quand on parle de pays post-conflit, voilà. Les auditeurs vous enverrez peut-être à l'Angola et diront, ben, ils sont sortis aussi de la guerre. Et bon, pour ne pas citer que l'Angola, il y a d'autres pays, mais bon, c'est un cas, on vous le concède, quoi.
Voilà, non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des efforts qui ont été faits, vous-même vous l'avez dit, entre 2007 et maintenant, le budget est en train d'augmenter. Souhaitons que ça continue. Et il y a les ressources internes, mais il y a toutes ces ressources aussi externes qui sont en train d'être mobilisées par le gouvernement avec l'appui des partenaires internationaux. Donc, voilà ce que je voulais répondre par rapport à ça.
Et docteur Richard qui voulait les chiffres 60 à nos jours, est-ce que vous en avez une idée des 60 à nos jours, les enquêtes menées par...
Je crois que vous l'avez dit tantôt, dans les années 70, lorsque vous aviez effectivement la coopération avec Haïti, vous aviez d'assez bons résultats. On avait des taux autour de plus de 90%, etc. Il y a eu la crise, il y a une chute, mais depuis 2010, c'est en train de remonter. Je l'ai dit tantôt, par exemple, en 2000, le mix 2001, si ma mémoire est bonne, on était autour de 53% de taux de fréquentation. Le dernier mix 2010, on est à 75% pour le primaire. Donc, les effectifs sont en train d'augmenter. Aussi, ce qu'on a observé sur le terrain, c'est vrai que la gratuité a beaucoup de difficultés, mais lorsque elle a été déclarée dans les provinces où elle a été, on a constaté sur le terrain une augmentation des effectifs. Il y a une massification, justement, des classes de première, deuxième et troisième année primaire. Énormément d'effectifs qui posent aussi un problème de qualité et de gestion. Et ça, c'est un peu les effets pervers de la gratuité, parce qu'un enseignant avec une centaine d'élèves, il y a aussi matière à réflexion pour voir comment mieux gérer cette situation.
Voilà, nous vous invitons, chers auditeurs, vous pouvez participer à ce débat, il nous reste encore un quart d'heure pour échanger avec notre invité Ibrahima Diallo, spécialiste en éducation à l'UNICEF. Composez les 081 890 63 15 ou encore les 081 890 43 39.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Lungembo.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi. Parole aux auditeurs se poursuit. Ismaël et Lubumbashi, Nancy Akikwit, Théodore Mbujimaï. On va vous accorder la parole tout à l'heure, mais tout en vous rappelant qu'en RDC, plus d'un enfant sur quatre en âge de scolarité ne fréquente pas l'école. C'est le résultat d'une étude réalisée par le ministère de l'EPSP avec l'appui de l'UNICEF et autres partenaires de l'éducation. Ismaël, merci de nous rejoindre. Bonjour.
Bonjour, Gilles.
Voilà, Ismaël, quelles sont, selon vous, les stratégies pouvant permettre davantage d'investir dans l'éducation des enfants?
dans le sens de stratégie dont je veux parler, et celle que, si vous remarquez sur le plan éducatif, nous remarquerons que 100% les institutions de l'État restent, plutôt les institutions privées prennent 80%. Cela cause aussi une difficulté intense à ce que les enfants ne puissent pas accéder facilement aux études. Si vous prenez par exemple, si les enseignements étaient gratuits, on devait avoir plus d'accès aux enfants, on devait avoir aussi un nombre augmenté. Faisons un peu un parent qui souffre sur le plan économique. Puis, c'est suffit seulement que l'enfant parte à l'école pour étudier. Et cet enfant-là, ça devient tyran parce que si l'enfant n'a pas mangé, et les parents se soucient plus que l'enfant parte à l'école. Ça va avoir aussi plus de difficultés. Et si nous faisons par rapport, si nous prenons Kinshasa et Lubumbashi, ici, c'est par exemple, il y a même ceux qui sont dans des communautés, des communautés, un enfant paye par exemple $35 à $40. C'est très difficile, soit si un parent qui a 8 enfants. C'est très difficile pour s'occuper de ces deux enfants, de ces 8 enfants à l'école. Et en plus, ils payent aussi les loyers, en plus, ils payent aussi les frais. À manger, à boire, c'est tout, ça fait difficile. Je vois que sur les ministres, on augmente aussi les budgets. Je me souviens aussi en 2008, quand il y avait une difficulté de la rentrée scolaire, quand j'ai fait les poèmes, la rentrée des classes, j'étais animé par lui, qui était celui du Tibane, de la radio Dikou de Tukananga. C'était encore très difficile. Si on veut même dans l'essence de ce genre de poèmes, on peut même se rappeler que si le budget de l'État est augmenté en faveur d'abord des enseignants, ça peut avoir ampleur. Si nous pensons maintenant sur les complexes scolaires, ça prend plus de dépenses. Et vous verrez qu'un enfant de l'école primaire qui paye 15 000 par mois, c'est tout à fait difficile. Si vous en avez trois, bon, ça coûte aussi plus que cher. Faut se réfugier un étudiant, c'est comme un budget de la province en général. Moi, je pense que si on pense plus aux enseignants et dans ce domaine éducatif, ça peut prendre ampleur et on aura soit 60%, parce qu'à présent, nous avons 10% des enfants scolarisés. C'est ça qui est à Lubumbashi, vous verrez que pour aller à l'école, il faut que l'enfant vende de l'eau au lieu de rentrer au mois de septembre, c'est au mois de décembre où l'enfant va commencer à accéder aux cours. C'est tout à fait difficile. Moi, je vois qu'on allège même cette tâche aux parents plutôt que le temps se prenne en charge. C'est ça dans le sens dont moi
voilà, donc vous souhaitez qu'on puisse supprimer ce système de la prise en charge de l'éducation par les parents. Bon voilà, c'est ce qui constitue quand même un fardeau hein, pour certains responsables. Merci Ismaël d'avoir appelé de Lubumbashi. Nancy, vous êtes à Kikwit. Bonjour Nancy.
Bonjour.
Merci de nous rejoindre Nancy. Vous avez la parole.
Oui, moi je soutiens ceux qui ont dit qu'il faut la gratuité de l'enseignement. Parce qu'il y a des parents qui ont des problèmes, ils ont plus de 5 enfants pour les scolariser, mais ils ne sauraient pas. Mais je prends des exemples.
Voilà, Nancy, s'il vous plaît, Nancy.
L'année écoulée, on avait essayé un peu de pratiquer la gratuité de l'enseignement de la primaire jusqu'en troisième. Mais les parents envoyaient beaucoup d'enfants à l'école. S'il y avait les 5 enfants, ils les ont envoyés. Il est arrivé que quand ils sont arrivés à l'école, les directeurs ont demandé un peu.
Voilà, on a des soucis avec Nancy, hein, sur des communications, mais je crois que on peut retenir qu'au niveau de Kikwit, on avait essayé quand même avec ce système de gratuité de l'enseignement, ça a créé un engouement, et on a vu des parents qui étaient, en tout cas, très déterminés à envoyer leurs enfants à l'école, mais bon, si je comprends par la suite, les directeurs commençaient aussi à demander, ne fût-ce que quelques motivations, c'est ce qui a compliqué un peu la chose. Merci Nancy d'avoir appelé, et je souligne que c'est la première fois que vous intervenez, et avec l'analyse. Théodore, vous êtes à Mbujimayi. Bonjour.
Bonjour et merci pour la parole.
Voilà, Théodore, vous avez déjà la parole.
L'investissement dans l'éducation primaire et secondaire doit être une urgence entreprise par l'État congolais. Vous savez que si les tendances à la baisse de la scolarisation et celles à la hausse de la déscolarisation se poursuivent de cette manière et que l'analphabétisme augmente, les pays en général éprouveraient d'énormes difficultés pour atteindre l'objectif numéro 2 qui est pour l'éducation pour tous. Pour bien investir dans ce domaine, sur le plan administratif par exemple, il faut qu'il y ait un renforcement des encadreurs par l'organisation des ateliers de courte durée. il faut aussi obtenir une révision de la loi cadre de l'enseignement national, incluant de façon formelle la disposition de gratuité de l'éducation de base. Sur le plan des structures, on doit créer et construire tout en planifiant de nouvelles écoles techniques à travers le pays. L'État doit prendre en charge totalement l'état des charges des structures organisant des programmes spéciaux.
Oui, Théodore, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez peut-être nous faire une idée très claire là-dessus? Quand vous parlez de la révision de la loi cadre de l'enseignement, vous pensez à quelle disposition dans cette loi cadre?
Je pense à ce qui concerne la gratuité de l'école primaire, et puis qu'on avait promulgué cette loi, mais cela n'est pas pratiquant dans nos provinces. C'est pourquoi il faut qu'on revoie cette loi de la manière que toutes les écoles primaires, à partir des premières jusqu'à, par exemple, la cinquième, qui est gratuité. Mais c'est parce que cette gratuité n'existe pas.
Voilà, parce que le ministre a expliqué largement sur ça, hein, a expliqué largement en disant que c'est d'une manière progressive. Hein. On avait commencé au niveau des provinces, excepté Lubumbashi et Kinshasa. Je crois que cette année, lors de son dernier passage dans ce studio la semaine dernière, il a promis que le gouvernement va s'y atteler pour revoir un peu cette décision pour pouvoir si la possibilité de pouvoir lancer aussi au niveau de Kinshasa et Lubumbashi.
Je termine.
Allez-y rapidement parce que vous l'avez
quitté. Pour réussir cet investissement, il faut qu'un budget conséquent soit voté au niveau du Parlement et exécuté par le gouvernement de la bonne manière. Et puis, je termine en disant, ici chez nous, nous avons une école primaire, l'esprit de l'application. On a ravi leur établissement par l'université de Mbujimayi. Ils ont promis qu'ils vont construire pour ces enfants. Ces enfants étudient à même l'instant jusqu'aujourd'hui, sous les bambous, en plein Mbujimayi. Alors il faut que l'enseignement puisse voir pour remettre cette école primaire d'application dans ses droits.
Merci beaucoup Théodore. Ibrahima Diallo, on n'a plus assez de temps, hein. Il nous reste 2-3 minutes, on va conclure avec vous. Le rapport est sorti, donc le rapport de l'enquête mené, on retient que plus d'un enfant sur 4 en âge de scolarité ne fréquente pas l'école. Il faut ajouter à cela, disons le rapport évoque plus de la moitié des enfants qui commencent l'école tardivement et plus de la moitié des filles sont comptées au nombre des enfants hors d'école. Alors des résultats qui serait dû, selon le même rapport, notamment au financement insuffisant du système éducatif par l'État congolais. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quelles sont les orientations politiques proposées par le rapport pour que finalement on arrive à, si pas atteindre l'objectif des millénaires pour le développement, mais au moins relever un tout petit peu les défis qui nous attendent?
Merci, je vais essayer d'être bref comme le temps nous est compté, mais je pense que ce qui a été dit, ça va dans le sens de ce qui a été soulevé par les auditeurs, la plupart d'entre eux. Effectivement, nous continuons à faire le plaidoyer pour que la part du budget national qui est consacré à l'éducation augmente, ça c'est un fait. Il faut absolument qu'on se rapproche des standards internationaux qui ont été justement arrêtés par l'ensemble de la communauté des nations. C'est une dimension. L'autre dimension, je crois qu'il faut qu'on revisite effectivement. Quelqu'un a parlé de la loi cadre de l'éducation. L'étude a proposé qu'on revisite toutes ces politiques et stratégies et voir où se trouvent les goulots d'étranglement et leur apporter des solutions en vue de les rendre beaucoup plus, n'est-ce pas, à même de pouvoir faire en sorte que les enfants aillent à l'école et y restent et ne soient pas en dehors de l'école. C'est une autre dimension. On a aussi réfléchi sur ce que l'on appelle des programmes de protection sociale. Effectivement, l'incidence de la pauvreté dans le pays est extrêmement élevée. Je crois que c'est autour de 71%. Donc, il est important de voir pour les familles les plus démunies, pour des raisons d'équité, n'est-ce pas, et de justice sociale, comment appuyer ces familles pour qu'elles puissent justement se libérer de cette charge que constitue l'éducation des enfants et se consacrer à d'autres types de charges et envoyer les enfants à l'école. Et pour ça, nous sommes en train de réfléchir sur des politiques de protection sociale, soit c'est des bourses qu'on va donner à des familles pour que, en contrepartie, ils puissent laisser les enfants aller à l'école et autres, soit c'est peut-être des dotations qu'on fera à des écoles pour qu'elles puissent prendre des enfants issus de familles démunies, des enfants vulnérables, et leur donner l'éducation qu'il faut sans leur demander une contrepartie.
Voilà, merci Ibrahima Diallo. Nous rappelons que vous êtes le spécialiste en éducation à l'UNICEF. Merci d'avoir accepté notre invitation et à très bientôt.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Allô? 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 Mais ils ne répondent pas?
Voilà, nous disons merci à vous tous. On dit merci donc à vous tous qui avez participé à ces débats. Merci à Alain Goy qui nous a aidés, en tout cas du côté de la mise en onde de cette émission. Et Titine Poutou et Biroué Lameji ont réalisé ces programmes qui vous ont été présentés et coordonnés par J.R. Lungembo sous la supervision de Nicole Ngaka. Je vous invite à réécouter cette émission sur www.radioocapi.net. En tout cas pour la suite, restez branchés sur la fréquence de la paix.